Rockoscopie, la culture rock sur Judaïque FM.
Bonsoir, Rockoscopie, bienvenue à toutes et à tous, comme dirait le président, à toutes et à tous. Et j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Aymeric Leroy. Salut Aymeric.
Bonsoir.
Merci d'avoir fait l'effort de venir dans des conditions rocambolesques dans ce studio après une petite escapade anglaise. On est là parce que tu viens encore de sortir un livre référence sur le rock progressif. Alors j'avais ma petite formule que j'ai préparée à l'avance. Hein. Tu es le Steven Wilson de la monographie prog.
Oui, une sorte de graphomane.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas Steven Wilson, c'est un musicien qui pourtant n'est plus très jeune et qui non seulement une carrière musicale très riche, mais en plus passe son temps à remasteriser tous les grands classiques du rock progressif.
Ouais, lui il n'arrête pas. Je pense que c'est quelqu'un qui sait pas qui arrive pas vraiment à décrocher. Donc dans ses moments de loisir entre ses activités solo,
workaholic,
il se distrait. Ouais, voilà, tout à fait.
Alors bon, c'est pas tout à fait ton cas peut-être encore maintenant, mais quand même, il y a eu Pink Floyd, il y a eu King Crimson, il y a maintenant Yes. Entre temps, il y a eu aussi des traductions de livres qui parlent de plein de choses. Il y a eu le livre sur les Beatles, en studio avec les Beatles, c'est bien ça?
Ça c'est le livre de mon quasi-homonyme Jeff Emmerich. Mais moi, j'ai fait Revolution in the Head, le livre de Ian MacDonald, qui est une analyse de chanson par chanson de toute l'œuvre des Beatles. Et j'avais fait aussi l'autobiographie, entre guillemets, de Bill Graham, le grand organisateur de concert. J'avais traduit ça aussi.
Et tu as traduit un livre de souvenirs de Bill Bruford,
voilà,
dont on va parler, puisque c'est un des batteurs emblématiques de Yes. Et Yes, c'est le groupe dont on va parler ce soir. Groupe britannique qui a commencé sa carrière à la fin des années 60 et qui rentre dans la grande famille des groupes essentiels du rock progressif. Donc évidemment, ce soir, dans Rockoscopie, on va reparler de ce genre, de ce style. On va redonner quelques définitions. On va essayer d'être assez généraliste pour une partie de cette interview, pour donner envie à tous les auditeurs de s'intéresser à ce courant-là, qui existe encore, malgré quelques difficultés. Et puis pour aussi rassembler diverses histoires. Et puis pour être complet, hein, donc tu as aussi écrit deux livres plus généraux. Un sur le rock de Canterbury, ou l'école de Canterbury, un gros pavé qui est en gros l'œuvre de ta vie, si on peut dire.
Oui, je pense que je referai jamais un truc comme ça.
Et puis un livre généraliste sur le rock progressif.
Voilà, mon plus grand succès à ce jour.
Où on retrouve aussi un peu d'Yes, mais aussi bien des courants de ce genre, y compris en France, en Italie, aux États-Unis. Alors, justement, par rapport à cette question un peu universaliste, en quoi Yes fait partie des plus grands groupes du rock progressif et en quoi on peut le rapprocher des autres deux très grands que sont par exemple Genesis et King Crimson?
Alors ben justement, j'étais tenté de te répondre en parlant de King Crimson et de Pink Floyd, de deux groupes sur lesquels j'ai fait précédemment des livres. C'est-à-dire ces deux groupes sur lesquels il peut se poser la question de savoir si c'est du rock progressif. King Crimson, il y a ce côté un peu plus improvisé, cette façon de changer de style quand même assez considérablement au fil de sa carrière. Pink Floyd, bon, eux aussi, métamorphose constante. Yes, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un groupe, le groupe sans doute de rock progressif, qui a un petit peu, je dirais, solidifié l'idée qu'on pouvait se faire de cette musique comme genre à part entière au sein du rock, d'une façon que peut-être des gens comme Emerson, Lake & Palmer qui ont été connus mondialement un peu avant Yes, donc qui ont été les premiers notamment à marcher aux États-Unis, ou Genesis qui est un petit peu plus tardif, ne sont pas tout à fait, quoi. S'il fallait déterminer le groupe emblématique rock progressif, à mon avis Yes s'impose pour toutes ces raisons. C'est vraiment les recettes, ce qui est devenu en tout cas des recettes qui au départ étaient des idées originales, mais en tout cas qui ont été déclinées pas mal par la suite. Yes les a vraiment perfectionnées au fil de Yes Album, Fragile et puis Close to the Edge. Sur cette trilogie-là, on est vraiment arrivé à une fondation stylistique assez solide, quoi.
Alors on va essayer de faire un peu de vulgarisation, même si pour le grand spécialiste que tu es, ça peut paraître un petit peu un enfantin, mais quelques éléments de définition, on peut peut-être dialoguer par rapport à ça pour redire aux gens qu'est-ce que ça veut dire progressif.
Alors progressif, d'une certaine manière, on peut utiliser le vocable tel qu'il est devenu d'une certaine manière de façon descriptive, c'est-à-dire qu'il y ait une idée de progression au sein d'un morceau, Alors c'est pas forcément ce que ça voulait dire au départ, mais je trouve que finalement c'est pas si mal de l'écrire comme ça, c'est-à-dire qu'on part pas d'un point A pour revenir à un point A, c'est-à-dire qu'il se passe des tas de choses. C'est, pour prendre un exemple que les gens pourraient connaître plus facilement, un Stairway to Heaven de Led Zeppelin, qui est quand même un morceau assez progressif dans l'esprit. On commence par des guitares acoustiques et des flûtes à bec, et ça se termine par du hard rock quasiment. Donc le rock progressif, c'est un peu cette idée qu'on puisse avoir un mouvement dynamique assez fort au sein d'un morceau. Et une autre caractéristique, je dirais, c'est l'idée d'une démocratie entre les instruments et les chants. C'est-à-dire que la pop, traditionnellement, les instruments accompagnent le chant. Tout au plus, il peut y avoir un solo de guitare qui émaille une chanson, mais le chant reste dominant dans un groupe de rock progressif. Et le cas d'IS est assez emblématique, puisqu'ils ont un chanteur qui ne joue pas d'instrument. Mais malgré ça, il y a des passages instrumentaux très conséquents de plusieurs minutes. Donc il y a vraiment une volonté de donner la parole à tout le monde quasiment à égalité.
Et donc si on suit ta définition, on peut arriver logiquement à un rapprochement avec les musiques dites savantes, comme le jazz et la musique classique, qui respectent ce type de règles entre guillemets aussi.
Voilà, puisque l'idée, en fait, on en revient au creuset du psychédélisme d'une certaine manière, qui était à la fin des années 60, l'idée de sortir un peu des limites du rock et de partir dans toutes les directions possibles pour l'enrichir, sachant qu'au départ, c'était quand même des recettes assez limitées. Donc effectivement, emprunter au jazz l'idée de solo assez développé, à la musique classique des structures plus élaborées et des rythmes complexes, d'ailleurs qui avaient cours aussi dans le jazz par ailleurs, des idées structurelles plus développées et plus virtuoses aussi. Une idée de la virtuosité qui n'était pas vraiment présente au départ dans le rock.
Du coup, le rock qui était une musique au début, ou en tout cas dans sa version la plus simpliste, faite pour danser, presque fonctionnelle pour certains, puisque c'est né comme une nouvelle danse, hein, le rock'n'roll, au tout début, pour ceux qui ne voyaient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Et en plus de ça, il y a la question de la virtuosité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer du rock progressif si on n'est pas un bon musicien. C'est difficile.
Oui, c'est vrai, puisque bon, pour prendre l'exemple de Pink Floyd, qui est un groupe qui a été un petit peu limité justement par son absence de virtuosité en termes de ce qu'ils pouvaient se permettre sur le plan technique, ils en ont tiré leur parti et ont fait une musique plus atmosphérique, plus minimaliste, qui a tout à fait sa légitimité et quelque part son génie. Mais c'est vrai que le courant progressif sorti du psychédélisme s'est vraiment distingué par cette idée de virtuosité, puisqu'il n'y avait pas simplement l'idée d'un voyage un petit peu intérieur dans des atmosphères, mais l'idée de cette virtuosité que moi je considère plus comme collective que comme l'idée d'une mise en avant systématique d'une performance purement technique. Pour moi, s'il manque cette dimension collective au rock progressif, on entre dans des catégories qui seraient plus de l'ordre peut-être soit d'un côté du métal, soit d'un côté du jazz rock ou du psychédélisme dans le côté solo interminable, tel qu'on dit parfois ça à propos du rock progressif en disant les solos interminables, tout ça. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ils peuvent être longs, les solos, mais généralement, leur durée est quand même très, très structurée, limitée.
Oui, on trouvait ça, par exemple, dans des groupes comme Iron Butterfly ou Led Zeppelin, où un solo de batterie pouvait durer 10, 15 minutes.
Voilà, c'est vrai qu'on écoute The Song Remains the Same de Led Zeppelin. Il y a objectivement plus de longueur que dans un live de Yes, où les morceaux sont rejoués quand même de façon assez proche des originaux.
Et du coup, pour conclure sur ce mini-débat sur le rock progressif, en espérant vous avoir éclairé, on trouve aussi, dans ce qu'on vient de dire, finalement, l'essence des critiques de ceux qui n'aiment pas et qui trouvent des raisons de ne pas aimer.
Voilà, alors il y a des raisons légitimes, puisque bon, esthétiquement, on peut ne pas aimer ce côté symphonique, le trouver pompeux, trouver que les concept albums, c'est assez prétentieux, et il y a des cas au sein du rock progressif et même de l'œuvre de Yes qui peuvent prêter le flanc à cette critique. Mais il y a aussi beaucoup de critiques de mauvaise foi ou de gens qui visiblement connaissent pas et qui ressassent un petit peu les mêmes clichés. Je parlais tout à l'heure des solos de guitare interminables, encore une fois. Voilà, c'est pas comme s'il y avait de l'improvisation, de la virtuosité complètement en roue libre. C'est pas dans l'essence du rock progressif. On est vraiment sur quelque chose de plus structuré, à mon avis. Donc c'est critiquable par d'autres aspects, mais voilà, là, ça me paraît pas pertinent, par exemple.
Alors, on va se rendre compte, avec le premier extrait de la riche discographie de Yes, que justement, la virtuosité est assez subtile et que parfois, elle tient à certaines idées assez brillantes. Mais je vais juste rappeler quand même la structure du livre, parce que aux éditions Le Mot et le Reste, c'est toujours le même modèle, entre guillemets. C'est une histoire linéaire du groupe, du début à la fin, qui est essentiellement ponctuée et rythmée par les sorties d'albums, Et avec des petits apartés que toi, évidemment, tu as fait, c'est-à-dire parce que dans Yes, c'est un peu comme une équipe de foot. Hein. Il y a le rentrant sur le terrain, il y a le sortant, il y a celui qui revient après avoir passé un petit peu de temps dans un autre club. Et en l'occurrence, Rick Wakeman, le claviériste, s'affiche là-dessus comme un véritable passe-partout. Et ça fait des petites pauses au milieu de l'histoire, avec des épisodes assez étonnants aussi, avec des albums avortés, avec des moments où le groupe n'existait plus, etc. Mais globalement, on suit d'album en album, avec à chaque fois une critique dans le sens le plus plein du terme de chaque album, qui est analysée de façon très précise, y compris les textes, et on en parlera, parce que tu es un des seuls qui fait ça quand même, de s'intéresser vraiment aux textes et de ne pas s'arrêter à l'impression, et c'est souvent ce dont le rock progressif est victime, hein, de la part de ses détracteurs. Ils regardent la pochette, ils regardent la look des musiciens, ah, c'est nul. C'est un petit peu le mode d'emploi du rock critique des années 70-80 en France, ça, par exemple. Ouais. Mais bon, je m'égare.
Donc, je me permets juste de te corriger par rapport à la structure du livre. En fait, c'est, à la base, chez Le Mot et le Reste, la formule typique, c'était plutôt 100-150 disques représentatif, et j'étais un peu le premier avec Pink Floyd à faire cette formule qui finalement n'est pas originale du tout, mais de faire un parcours discographique chronologique, et qui a été pas mal repris depuis, mais j'étais un peu le pionnier de ça, et donc ce livre suit un petit peu ce modèle que j'ai un petit peu inauguré à l'époque avec Pink Floyd en 2009.
Et donc, premier extrait d'un album qui, alors tu vas me corriger, attention si je fais une erreur, Fragile 1971.
Toute fin de 71, est sorti en 72 aux États-Unis, donc des fois les gens ne sont pas tout à fait d'accord s'il est plutôt de cette année-là ou de l'autre.
Et donc, comme les morceaux sont assez longs dans une émission de 55 minutes, on ne peut pas vraiment faire autrement, donc je vais être obligé de vous proposer un extrait de ce titre. Alors, pourquoi moi, personnellement, je l'adore ? Parce que je trouve que la ligne de basse de Chris Squire est absolument addictive, c'est presque obsessionnel. Il y a à la fois une élégance, il y a un son, il y a aussi l'art du contrepoint, ce qui s'exprime comme un compositeur classique, tellement ça accompagne avec subtilité le reste. Et donc voilà, je suis un peu obsédé par cette ligne de basse, mais c'est aussi un très joli morceau, qui n'est pas spécialement rock finalement, hein, qui est un morceau de musique, de chant, de
C'est très inclassable, l'instrumentation varie tout le temps, ça passe de l'acoustique à l'électrique. Et puis bon, si on parle de Chris Squire, il faut aussi parler de Bill Bruford, qui est un contrepoint rythmique assez essentiel, et qui fait que cette version d'origine, pour moi, est assez indépassable par rapport aux versions qu'ils ont faites ensuite avec Alan White à la batterie.
On parle du groupe Yes dans Rockoscopie, un extrait donc de l'album Fragile, il s'appelle Roundabout.
We'll be right back.
Un extrait de Roundabout, on peut dire le premier classique du groupe Yes, parce qu'il passait dans une version apparemment raccourcie sur les radios. C'est comme ça que les États-Unis se sont intéressés au groupe. Et je crois, Emeric, qu'on peut dire qu'on a une bonne idée quand même du style par rapport aux autres groupes de prog. Les voix, la voix au perché de Jon Anderson et les chœurs sont quand même quelque chose de très caractéristique.
Oui, ça c'est quelque chose qui était très important dès le départ, comme j'explique dans le livre. Dès la rencontre de Chris Squire et Jon Anderson, ils ont constaté qu'ils étaient tous les deux très fans des harmonies vocales. Alors, ils citaient notamment Simon & Garfunkel, mais aussi des groupes américains comme Fifth Dimension, ce genre de groupe. Donc, ils avaient envie de faire un groupe qui soit à la fois très puissant instrumentalement et très fort au niveau des harmonies vocales, et donc avec aussi cette particularité de la voix très haut perché de Jon Anderson.
Alors, en même temps, il y a quelque chose d'assez marquant dans cette histoire progressive de l'Angleterre, parce qu'on se rend compte que les groupes, alors peut-être à part King Crimson, qui était un peu spécial au début, mais on retrouve ça, c'est Genesis par exemple, ils n'ont pas été aussi avant-gardistes au début de leur carrière. Il y a eu un cheminement quand même qui commence en 67-68 et qui leur prend 2 ou 3 ans. Ça se voit particulièrement dans la longueur des morceaux, et quelque chose que j'aime beaucoup puisque je fais des émissions régulières là-dessus, sur l'utilisation de rythme impair dont tu parles régulièrement dans le livre aussi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, cette progression justement?
Oui, alors je ferai un peu une différence avec Genesis qui a commencé vraiment avec un premier disque qui est encore très, très pop, très naïf. Chez Yes, quand même, il y a déjà dès le premier album des ouvertures vers des choses un peu progressives. Simplement, ils savent pas encore tout à fait composer de façon aussi sophistiquée qu'ils le font plus tard, notamment avec l'arrivée de Rick Wakeman sur l'album dont on vient de parler, sur Fragile. Mais dès le départ, il y a cette volonté quand même de créer des structures un petit peu élaborées, des morceaux qui durent quand même déjà 6 minutes ou plus. Donc voilà, simplement ça s'est peaufiné avec les albums. Et alors, tu disais premier classique, Roundabout. Pas tout à fait, puisque c'est le premier succès vraiment qui leur ouvre la porte des États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a le Yes Album avant, des Yours Is No Disgrace, des morceaux comme ça qui sont
oui,
Starship Troopers, qui sont des chevaux de bataille éternels du groupe. Quoi.
Alors, c'est pas forcément le morceau qui passe le plus en radio, c'est aussi pour ça que j'en parlais, mais ouais. C'est vrai qu'on va écouter justement un extrait du Yes Album après, pour un des titres qui a notamment été repris au cinéma. Hein. Je crois que tu en parles aussi de Almost Famous.
Oui,
un film assez important pour les amateurs de rock qui raconte la vie d'un groupe en tournée avec un jeune journaliste enfin bref, on va pas tout raconter, mais il y a aussi cette question de les ambitions du groupe au départ ne sont pas forcément à leur portée musicalement, et il faut qu'il y ait un petit plus. Alors parfois c'est quelqu'un qui joue mieux que les autres, parfois c'est quelqu'un qui connaît le solfège, et en l'occurrence Wakeman va être celui-là, qui permet d'avancer aussi. Hein.
Tout à fait, mais je pense que dès le départ, pour ceux qui vont rester jusqu'aux albums, enfin qui sont là dès le départ et qui restent jusqu'aux albums, aux grands classiques, donc Anderson, Chris Squire et Bill Bruford, dès le départ on sent quand même que ce sont des musiciens d'une certaine trempe, et c'est vrai que c'est plutôt en remplaçant les deux autres, Peter Banks et Tony Kaye, par Steve-O et Rick Wakeman, que là on a une égalité de talent et une espèce de côté super groupe, comme on dira souvent au sein du rock progressif, sauf que là le super groupe il s'est constitué par du recrutement au fur et à mesure, plutôt que d'être au départ une réunion calibrée pour générer un maximum d'intérêt médiatique ou commercial.
Et ce que tu soulignes aussi dans le livre, c'est que pendant une certaine période, il a existé, parce que ça aujourd'hui le dire c'est de la science-fiction, des maisons de disques qui étaient non seulement favorables à ce genre d'expérimentation, de nouveautés, mais qui n'attendaient pas un retour sur investissement immédiat.
Tout à fait. Bah, l'idée d'un développement d'artiste, c'était on n'attendait pas forcément à ce que ça produise des résultats avant 3 albums, alors que bon, maintenant, on est plus... Enfin, je parle maintenant, on est encore déjà une autre époque encore, mais entre-temps, il y a eu l'idée qu'il fallait d'abord sortir un single et se prouver commercialement avant qu'on ouvre les vannes et qu'on finance un premier album, par exemple.
Et en plus, dans le cas du rock progressif, l'idée de single était quand même beaucoup moins importante, parce que le fait d'avoir un album en entier avait une cohérence et pas de remplissage avec, comme faisaient les grands groupes des années 60, 2-3 titres importants et le reste on fait ce qu'on peut. Et en plus de ça, musique qu'on pouvait écouter seul ou assis, ou voire même extrêmement concentré sur... C'est très
oui, voire même avec l'aide de certains stimulants, puisque bon, au départ, cette idée, il faut bien le dire, de musique un peu de voyage et tout ça, est venue par un changement du public. Tu parlais tout à l'heure de groupes qui jouaient pour faire danser leur public. Au départ, jusqu'au milieu des années 60, les groupes venaient en concert et les gens s'attendaient à ce qu'on les fasse danser. Donc, quand ils ont commencé un petit peu à être un peu plus stone, ils voulaient plus triper, quoi. Donc les groupes se sont un petit peu adaptés. Donc il y a eu le rock psychédélique et puis le rock progressif est né un petit peu aussi de cette envie de voyage, alors qu'il n'est pas forcément stimulé, parce que moi personnellement je suis pas consommateur du tout de ces choses-là. Et il suffit de la musique en elle-même permet un voyage intérieur, et c'est un peu ce qu'on y recherche aussi quand on aime ce genre de musique.
Yes, donc l'histoire du groupe de rock progressif britannique, c'est aussi plusieurs groupes, mine de rien, parce que évidemment, le livre couvre presque 50 ans, puisque le groupe va fêter ses 50 ans là maintenant.
Au printemps prochain, oui.
Voilà, et on peut dire qu'entre les changements de musiciens et de maisons de disques et de styles, il y a des morceaux qui n'ont presque rien à voir les uns avec les autres.
Oui, il y a un côté saga dans l'histoire du groupe, et puis effectivement, au fil des changements de personnel et changements d'époque, puisque l'époque aussi, elle imprime sa marque à travers des pressions commerciales, à travers des changements de technologie vers d'autres styles de clavier, vers des synthés. L'idée de se renouveler, d'être à chaque fois le groupe le plus épatant, le plus inouï. Donc c'est vrai que ça donne le Yes des années 80, par exemple, qui a aussi, en 84, dominé d'une autre façon le paysage musical, d'une façon peut-être moins strictement musicale, mais avec un son qui était vraiment dans l'époque et qui était très novateur grâce à Trevor Horn, à la production. Mais on en reparlera tout à l'heure, je pense.
Oui, alors pour l'instant, on va rester dans la grande période dite classique, l'âge d'or, si on prend aussi ta définition, qui tient sur 3-4 albums, entre 71 et 74 à peu près.
Voilà, beaucoup prolongeraient jusqu'à 77 avec Going for the One, mais voilà, donc c'est aussi lié à une formation classique avec les musiciens qu'on a cités tout à l'heure.
Donc là, c'est un extrait de l'album précédent de Fragile, The Yes Album, qui est en gros l'album qui leur a permis de percer, où il y a vraiment une maturité, les compositions arrivent à un niveau et avec un savoir-faire et aussi une séduction assez notable. Donc j'ai choisi, alors si je ne me trompe pas, c'est un morceau qui est en deux parties, I've Seen All Good People.
Oui,
et donc la partie Your Move, c'est celle où on entend le fameux refrain avec des tit-tit-tit-tit.
Voilà, la partie plus acoustique, plus folky. Et puis l'autre, alors je trouve que c'est un binôme assez improbable au départ, mais on s'est habitué finalement à ce que cette chanson acoustique, elle débouche sur quelque chose d'assez boogie-woogie presque.
Et voilà, ça vous dira peut-être quelque chose, on a peut-être une petite chance de vous rappeler cet air, Your Move, extrait de The Yes Album. People turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you wise. Stop!
Rockscopie, l'actu rock du dimanche sur Judaïk FM.
On parle du groupe Yes ce soir dans Rockscopie avec Aymeric Leroy qui vient de signer, c'est un livre qui est paru en septembre, la monographie du groupe en français. C'est vrai qu'il y avait un livre avant, mais si, je ne l'ai pas lu, mais c'était un petit peu agiographique.
C'était l'un des problèmes. Il y avait un problème aussi de relecture, à mon avis. Mais bon, il y avait un bon travail de synthèse, de documentation, mais je pense être allé plus loin en toute modestie.
Donc, ce groupe important dans l'histoire du rock et dans l'histoire du rock progressif. Et on voit quand même avec ce clavier, moi j'adore cette arrivée de l'orgue, mais il y a un côté mystique. Hein. C'est peut-être un point commun avec le hard rock aussi. Tout à coup, on fantasme un peu sur l'idée de, non pas de la religion, mais en tout cas de quelque chose qui est du domaine du rituel. Hein.
Oui, il y a ça, il y a le côté simplement grandiose de cet orgue d'église qui arrive, bon, qui est un procédé qui a été utilisé plusieurs fois par Yes dans sa carrière, dans Close to the Edge, dans Awaken, dans des morceaux comme ça. Et alors après, il y a tout ce que j'ai exploré pas mal dans le livre, le rapport assez ambigu de John Anderson à la religion, à la figure divine. Donc c'est quelqu'un qui est assez représentatif de sa génération, dans le sens où il rejette la religion organisée, mais il a malgré tout une fascination pour la transcendance et la spiritualité.
C'est ça qu'on appelle les déistes, non?
Alors je sais pas forcément, ouais, je suis pas forcément un grand spécialiste de la question, mais en tout cas, bon, j'ai essayé de voir un peu quel était ses rapports, un peu de défiance par rapport à l'Église catholique, qu'il critique pas mal de fois, mais tout en parlant tout le temps de Dieu, donc c'est quelque chose d'un peu qui intrigue un petit peu, quoi.
Et ce qui est marrant, c'est que Chris Squire, qui est donc une des âmes de ce groupe, hein, même s'il est décédé depuis 2 ans, a quand même fait sa formation musicale en tant que chanteur de choriste d'église. Donc ça apporte, un peu comme les Noirs à une certaine époque, c'est à l'église qu'on chantait, et ben lui, ça fait partie aussi de ce qu'il a mis dans la musique.
Hein. Voilà, alors je sais pas si sur le fond de ce qui était chanté sur la conviction religieuse, ça a une influence, mais c'est clair que sur l'aspect choral, c'est quelque chose qui l'a beaucoup influencé, puisque en tant que très jeune homme, il était membre de ce chœur qui était quand même l'un des chœurs les plus prestigieux, un chœur d'enfant en tout cas, les plus prestigieux de Londres.
Yes, c'est quand même toute une histoire. Alors, du coup, est-ce que on peut dire que la façon la plus simple de la raconter, c'est de parler de l'arrivée et du départ des musiciens? Est-ce qu'ils ont tous eu la même importance les uns après les autres?
Ben non, parce que la formation là qu'on a écoutée, qui est celle de 1971 en gros à 1977, elle reste vraiment comme la plus emblématique. Certains amateurs apprécieront aussi les années 80 avec la figure de Trevor Rabin, mais qui représente quelque chose d'assez différent et qui n'est plus vraiment du rock progressif à proprement parler, même si c'est une forme aussi de virtuose et quelqu'un de capable d'écrire du rock progressif et qui a cette culture aussi, mais qui les a projetés un peu dans les années 80. Donc voilà, y a cette période domine de façon écrasante leur discographie, mais je sais pas si c'est si différent de la plupart des groupes de l'époque qui ont connu leur pic aussi dans les 10 premières années de leur carrière.
Si on compare par exemple avec les changements qu'il y a pu avoir dans Genesis, où il y a eu quand même assez peu de changements, en tout cas pour les périodes les plus importantes, et King Crimson, où là ça a beaucoup changé, ouais. On voit quand même que le style souvent s'accompagne de ces nouveaux musiciens, mais là il y a aussi une question de savoir-faire. Par exemple, Tony Kaye, qui est au début du groupe, qui revient, qui en repart, qui en revient, n'a pas du tout les mêmes compétences que Rick Wakeman au clavier.
Oui, et puis en plus se pose la question dans son cas de savoir s'il joue vraiment sur les disques, mais bon, ça c'est pendant les années 80, c'est quasiment Rabin qui joue tous les claviers en réalité, à part les parties d'Orgamonde. Donc c'est vrai que ce musicien là n'a pas forcément eu un impact très grand. Il a jamais composé, un petit peu plus tard, mais il n'a pas composé grand-chose. Disons que voilà, les forces dominantes dans le groupe, ça reste quand même le trio de John Anderson et Chris Squire, les deux cofondateurs, et leur lieutenant Steve-O, qui est arrivé après, mais qui est, voilà, ce triptyque-là est vraiment dominant dans la créativité d'Yes.
Alors, c'est une question difficile, mais forcément, on se la pose. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ces musiciens ne s'entendent plus, et qu'en plus de ça, s'ajoutent les questions de business, de manager, de contrat, et que ça peut suffire à faire éclater soit des titres en cours de composition, soit carrément des albums entiers?
Alors, Yes est assez particulier par rapport à beaucoup de groupes, dans le sens où c'est pas du tout un groupe dans lequel les relations humaines remontent à l'adolescence ou même à l'enfance. On a parlé tout à l'heure de la rencontre de John Anderson et Chris Squire, qui est à l'origine du groupe en 68. Donc c'est deux musiciens qui se connaissent pas du tout avant. Ils recrutent autour d'eux des musiciens. Donc il n'y a pas du tout de lien d'amitié au départ. C'est très professionnel, même si...
Led Zeppelin a fait ça, après tout.
C'est vrai. Alors bon, Page et Jones s'étaient quand même beaucoup fréquentés dans les studios. Et puis Plante et Bonham se connaissaient bien avant, ils étaient dans le même groupe. Donc là, il y a notamment le rapport entre Plante et Bonham est très important, je pense, pour la cohésion du groupe. Chez Yes, c'est assez différent. C'est pour ça que dès des problèmes sont apparus à la fois d'incompatibilité créative et puis d'influence de toutes les pressions extérieures qu'il a commencé à y avoir après la fin des années 70 de la part des maisons de disques, des radios pour faire de la musique plus commerciale. Ils n'étaient plus du tout d'accord sur la façon de se moderniser d'une certaine manière. Quelqu'un comme Chris Squire était très pour rester à la page. Steve-O a eu du mal un peu à évoluer. John Anderson, lui, se voulait un petit peu, tout en étant quand même assez opportuniste par moment, se voulait quand même un peu le garant de ce Yes un peu grandiose. Il a toujours été au centre des projets conceptuels de Yes, donc il ne voulait pas perdre cette dimension-là, et donc ça s'est un petit peu déchiré autour de ça, et puis des conséquences parallèles du succès, de la vie familiale qui commence à prendre le dessus et tout ça, qui fait qu'il y avait une forte unité quand même dans le groupe jusqu'à 74-75, et après ça se disperse un petit peu, quoi.
Il y a aussi la question des savoir-faire des uns et des autres qui font qu'ils réussissent ou qu'ils essayent de faire une carrière solo.
Oui, alors en fait, l'un des atouts de Yes, paradoxalement, c'est que leur première série d'albums solo, aucun n'a, en 75-76, aucun n'a marché au point de donner des tentations de carrière solo à l'un ou à l'autre. Donc dans un premier temps, ça a plutôt bien fonctionné, ça leur a permis d'évacuer un petit peu leurs envies de carrière solo parallèle. Bon, après, il y a eu des plus gros succès de John Anderson avec Vangelis, par exemple.
Je comprends pas quand même, tu parles bien dans le livre de Rick Wakeman qui vend des pelletés de ses albums.
Tout à fait, alors. Voilà, mais lui, en fait, il est parti assez vite après avoir fait son premier album solo. La tentation, lui était déjà un petit peu un mercenaire aussi. Hein. D'une certaine manière, Rick Wakeman, dès qu'il est rentré dans le groupe, il était un petit peu là de façon temporaire, puisqu'il ne s'est jamais complètement impliqué dans le groupe. Il avait un contrat parallèle avec son propre label A&M qui l'empêchait plus ou moins de participer à la composition des morceaux de Yes. Donc d'une certaine manière, malgré l'image qu'il a pu donner dans l'imagerie populaire comme étant l'un des membres emblématiques de Yes, il faisait pas partie du noyau créatif.
Et pourtant, avec son look, avec sa virtuosité, c'est une figure qui reste presque aussi importante que le chanteur, un petit monsieur avec sa voix au perché, qui n'a pas d'équivalent.
Oui.
Et alors ce qui est dingue aussi, mais alors pour ceux qui ne le savent pas, mais tu en parles un petit peu dans le livre, c'est que il a accompagné Black Sabbath sur plusieurs albums, donc un groupe de heavy metal pur et dur, donc il aimait bien apparemment, c'était pas seulement pour l'argent, je suis pas sûr qu'il soit millionnaire.
Un peu la picole aussi, je crois.
Et puis, c'est quand même lui qui a développé les magnifiques accords de Life on Mars de David Bowie.
Tout à fait, c'était, et puis on peut dire Morning Has Broken de Cat Stevens aussi, donc il avait quelques succès, bon, les accords de Mellotron, même de... comment elle s'appelle la chanson, Space Oddity, voilà, de Bowie. Donc il était un accompagnateur assez prisé, il faisait beaucoup de sessions de variété, et d'ailleurs quand il a rejoint Yes, il a dû renoncer à pas mal de boulot à côté, tout en enregistrant Fragile, il allait faire plein de séances de variété à côté. Donc c'est quelqu'un qui avait un grand talent d'arrangeur et pour embellir un petit peu des
morceaux. T'en parles au passé.
Oui, parce qu'en fait, je trouve que son apport à Yes a été vraiment important lors de son premier séjour, surtout encore un petit peu sur Going for the One avec toutes les grandes orgues.
77.
Hein. Voilà. Mais après, ses retours, je dois dire, ne m'ont jamais trop convaincu. Je trouve qu'il a eu un goût assez déplorable en matière de son. Et là, il n'a pas bien franchi, je pense, le changement des synthés analogiques vers les synthés numériques. Je trouve qu'il s'est perdu quelque chose là-dedans.
Il avait ce point commun avec Keith Emerson, hein, c'est ce gigantisme qui a tant fait crier certains critiques rock et certains amateurs de soi-disant pureté, etc. C'est on arrive sur scène avec un look très voyant, voire un air de mage un petit peu mystérieux, et puis 10 000 claviers autour de soi.
Voilà.
C'est ça qui est impressionnant.
Ça, c'était très novateur à l'époque, parce que l'idée de pouvoir reproduire quasiment un orchestre symphonique avec le mélotron, avec le mini Moog et tout ça, c'est quelque chose qui fascinait les gens à l'époque.
Une main sur un clavier, une main sur un autre.
Voilà. Alors bon, c'est assez différent d'Emerson malgré tout, parce qu'Emerson, il n'y a pas cette dimension symphonique, et il y a quand même quelque chose de plus jazz et aussi de plus substantiel, je trouve, au niveau des compositions, parce que pour moi, Rick Wakeman n'est pas vraiment un compositeur.
Et alors, ce qui est incroyable en plus, c'est que ça, c'est vraiment dans l'histoire que tu racontes, il n'a pas arrêté de faire des allers-retours, mais c'est du jamais vu. Comment on peut autant aller, venir, repartir, revenir?
Ça dépend vraiment des circonstances, parce que son premier départ, par exemple, c'était lié au fait qu'il venait d'avoir un énorme succès avec son album Journey to the Center of the Earth. Et par contre, quand il est revenu, c'est que là, il était ruiné, en fait, après une tournée où il dépensait tellement d'argent dans les mises en scène que, bon, bah, il est revenu un petit peu se faire excuser un petit peu auprès de son manager et revenu dans Yes un petit peu par opportunisme. Mais bon, par la suite, ses retours ont été souvent un petit peu comme ça, et jamais avec une implication totale. Par exemple, quand ils ont fait Kiss to Ascension dans les années 90, il n'était pas là la moitié du temps, quoi. Donc c'est toujours quelqu'un qui est resté un petit peu dans son solo trip, quand même, en parallèle de Yes.
Alors il y a eu un phénomène aussi très étonnant, qui n'a pas d'équivalent, c'est que dès la fin des années 80, on se retrouve avec quasiment deux entités, et aujourd'hui, où officiellement le groupe existe, on peut presque dire que c'est toujours pareil.
C'est même encore pire d'une certaine manière, parce que en fait là les deux tournent simultanément, alors que dans les années 80, quand il y a eu Anderson, Bruford, Wakeman, Howe, en fait l'absence de John Anderson a empêché l'autre Yes finalement de concrétiser quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas réussi à surmonter ce départ. Donc effectivement il y avait un Yes légal mais qui était incapable d'enregistrer un album, et un autre qui n'avait pas le nom Yes mais qui a fait un album et une tournée, et puis finalement pour un petit peu réunir tout le monde, ils ont fait cet album et cette tournée Union, parce que c'était intenable.
Ils sont à 8 sur scène et voilà. Où ils se font la gueule en jouant, quoi.
Pas forcément tant que ça. Disons que là, aujourd'hui, par contre, là, ça se fait la gueule, franchement, puisqu'on les a vus au Rock'n'Roll Hall of Fame là, en avril dernier, et là, franchement, l'ambiance était vraiment glaciale.
Et on parle de gens qui ont 70 ans.
Voilà, mais bon, c'est pas forcément des choses qui s'améliorent avec l'âge. Hein,
oui, c'est vrai, quand on voit l'exemple de Pink Floyd ou de Supertramp, il y a des choses qui ne se résolvent pas. Hein.
Ouais, mais alors Pink Floyd, pour le coup, c'est un peu un contre-exemple, puisqu'il y a une sorte de pacification quand même avec le Live Aid en 2005, et depuis, bon, Gilmour et Waters n'ont pas recollaboré ensemble, mais les rapports sont quasiment cordiaux. Hein.
Ah bon.
Alors... à ce que je crois savoir.
Un thème qu'on n'a pas encore abordé, car le temps passe, ce sont les textes. Alors... À part quelques albums, et on voit bien que plus on avance dans la vie du groupe, et moins tu t'appesantis sur les albums qui ont une valeur musicale moindre. En gros, à partir de 1987, c'est 87 Big Generator,
ouais.
Où là tu parles beaucoup moins à la fois de l'ensemble des morceaux qui sont moins intéressants, et puis moins des textes. Mais alors, sur les premiers albums, tu parles beaucoup des textes, avec notamment une vraie curiosité de te dire « Arrêtons de casser du sucre sur le dos de ce pauvre John Anderson, c'est pas si stupide, c'est pas si délirant. »
Voilà, c'est pas forcément ces termes que je me suis posé la question. Au départ, c'était plus de façon dépassionnée, essayer vraiment de trier le bon grain de livret d'une certaine manière, essayer de voir ce qu'il y avait de qui faisait sens et ce qui était du grand n'importe quoi. Ou, voilà, donc moi, j'ai essayé d'explorer ça en séparant ce qu'il pouvait y avoir de contenu réel et de propos qui faisaient écho de manière intéressante aux problématiques de l'époque, hein, sur toutes les années 70, c'est comme une époque riche en questionnements sociologiques, politiques et tout ça. Je trouve que John Anderson s'est positionné de façon plutôt intéressante là-dessus. Et puis il y a tout un autre aspect, alors que les critiques qualifieraient de grand n'importe quoi, et que John Anderson lui-même dit qu'il y a un certain côté de musicalité quasiment phonétique des mots avec lequel il a joué, qui a été au centre de son style. Donc c'est vrai qu'on peut reprocher que parfois la syntaxe des phrases est un peu approximative.
Mais d'autres l'ont fait, d'autres que lui l'ont fait. Hein.
Voilà, bon, c'est...
Même Dylan, hein, des gens très, très importants.
Ouais, bah alors peut-être jamais autant que lui, parce que Dylan, quand même, la syntaxe reste à peu près correcte. Mais John Anderson, des fois, bon... Il y a des phrases qui en anglais font pas vraiment sens. Même il y a des fautes d'orthographe dans les noms. Par exemple, le morceau qu'on va écouter, le morceau suivant, il y a une faute d'orthographe dans le nom, par exemple.
Oui, alors tu parles de Wondrous Stories.
Voilà.
Quel art de l'enchaînement. Alors juste un petit aparté là-dessus, parce que figure-toi que ces interrogations un petit peu moqueuses sur le sens des textes de notre ami John Anderson, eh bien je les ai notamment entendues de la bouche d'un chanteur français qui fait un groupe de reprises de Yes, une sorte de groupe officiel qui s'appelle And You and Yes, d'ailleurs qui cite ton livre sur leur site.
Je les cite dans mon livre.
Ils sont tout à fait contents.
On se connaît bien. Voilà.
Et c'est un groupe d'assez bon niveau, il faut bien le dire. Ils reproduisent assez brillamment les morceaux de Yes, et ben le chanteur, quand il évoque les textes sur scène, il rigole la moitié du temps en disant « Oui, je suis désolé, je vais chanter un peu n'importe quoi ».
Tout à fait, mais alors là, j'ai vu que sur leur page Facebook, suite le début de la lecture de mon livre, ils se posent officiellement la question de savoir si leur chanteur ne raconte pas lui-même n'importe quoi en disant que les textes, c'est n'importe quoi. Donc ils comptent bien mettre la lecture à profit pour voir ce qu'il en est réellement.
Bon, avec un peu de chance, où que vous soyez en France, vous pourrez peut-être voir bientôt ce groupe de reprises de Yes qui quand même fait Gates of Delirium en
voilà,
entier.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils choisissent pas la facilité en plus hein, dans le répertoire.
Donc des morceaux vraiment difficiles à jouer, difficiles à apprendre, qui demandent beaucoup, beaucoup de travail. Et celui qu'on va écouter, bah, je vais te laisser le présenter parce que pour le coup, c'est un de ceux que je connais le moins dans ma playlist d'aujourd'hui.
Alors il y a un point commun avec le morceau précédent, c'est l'utilisation d'une guitare acoustique espagnole ou portugaise, on ne sait pas très bien. Donc il y a ce côté un petit peu folk. Et c'est le morceau le plus court de l'album Going for the One. C'est aussi leur premier succès vraiment radiophonique en Angleterre, plus aux États-Unis cette fois, mais en Angleterre. Donc c'est sans doute le morceau qui est le plus connu de Yes dans ce pays. Et voilà, c'est une petite balade, mais qui pose aussi des questions un petit peu métaphysiques.
On écoute donc Wondrous Stories de Yes. Judaïque FM 94.8, dans Rockoscopie, on évoque le groupe Yes avec Aymeric Leroy, qui est auteur d'un livre tout simplement intitulé Yes, qui raconte toute l'histoire du groupe de ses origines jusqu'à maintenant, groupe qui va fêter ses 50 ans très bientôt. Donc on évoquait tout à l'heure les textes, on a évoqué aussi les allers-retours, les musiciens, les conflits, et du coup dans cette discographie finalement, il y a énormément de choses, en particulier des albums live. Quels repères tu peux donner à nos auditeurs pour ceux qui voudraient découvrir, parce que ça devient compliqué, d'autant plus que maintenant il y a parfois 3-4 éditions du même album avec divers bonus.
Ouais, alors bon, bah, dernièrement, il y a eu les remixes par Steven Wilson, justement, donc, que tu mentionnais tout à l'heure. En termes d'album live, bah, il y a évidemment le triple live Yes Songs, hein, qui est vraiment la
double,
référence.
Double CD, du coup.
Voilà, double CD, mais triple live, donc c'était assez monumental pour l'époque. Voilà, qui reste représentatif de ce que Yes pouvait être en concert à l'époque, en rajoutant comme une bonne dose d'énergie et à ce rock progressif très formaliste sur disque. Donc ça donne une alternative assez intéressante. Moi, je préfère quand même le studio malgré tout, parce qu'il y a ce perfectionnisme sonore, mais l'énergie qu'il pouvait avoir sur scène est assez intéressante. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup depuis d'albums live, bon, qui sont pas toujours franchement indispensables, hein, surtout pour les formules les plus récentes.
Et oui.
Moi, malgré tout, j'ai quand même distingué le live Yes Symphonique de 2001, qui est quand même vraiment pour moi un petit bijou tardif, d'un concert qu'on a vu notamment à l'Olympia à l'époque, qui reste un grand souvenir, où là ils ont ressorti leurs grandes épopées, et le groupe était encore avec ses quatre principaux membres, plus un orchestre et un très bon claviériste invité. Donc moi je mettrais celui-là parmi les indispensables aussi, quoi. Bon, après il y a aussi Yes Shows en 80, où il y a des très belles versions de morceaux du milieu des années 70 avec Patrick Moraz au clavier.
Donc un Suisse qui a rejoint le groupe pour un seul album studio, en fait.
Voilà, qui est resté quand même plus de 2 ans, mais qui est tombé malheureusement pour lui à la période où il voulait faire des albums solo tous, donc il n'est finalement resté qu'un disque, et il a été un petit peu mis de côté au profit du retour de Rick Wakeman, mais quelqu'un d'un grand talent.
Alors ce qui est assez perturbant, c'est que plus le groupe connaît des dissensions internes, en gros depuis quasiment le milieu des années 80, et plus il sort, alors je sais pas s'il contrôle tout là-dedans, d'albums live, quasiment maintenant c'est un album studio, un live qui suit derrière. Hein.
Oui, mais plus ça c'est devenu assez typique des groupes aujourd'hui, hein, qui essaient de rentabiliser un petit peu leur auditoire, en fait, en proposant régulièrement et de façon presque systématique. C'est quand même beaucoup plus facile maintenant d'enregistrer des albums live. On trimballe un ordinateur avec un logiciel multipiste et on peut enregistrer très facilement des concerts. À l'époque, c'était toute une entreprise de faire des albums live, et a fortiori de tourner des films de concert. C'est pour ça que Yes, il y a le film Yes Songs, qui est un peu frustrant parce qu'il est très court, et en plus dans les années suivantes il n'y a carrément rien du tout de professionnel, donc c'est assez dommage. Donc maintenant c'est devenu beaucoup plus facile, et du coup il y a un peu une surproduction, et puis aussi on ressort pas mal d'archives. Alors il y a eu un coffret justement de la période Yes Songs avec 7 concerts, je crois, complets, qui sont quasiment identiques à quelques détails près. Donc là, bon, c'est aussi
j'ai bien fait de prendre le 2 CD, moi.
Voilà, on peut se contenter de la synthèse, hein. Voilà.
Alors on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même il y a cette révolution de l'album 90125 avec l'arrivée de Trevor Rabin et le retour de Tony Kaye au clavier. Alors il fallait quand même que je le place, donc je vais dire à nos auditeurs que Trevor Rabin est petit-fils de Boucher Kasher, quand même, ce qui ne s'invente pas. Donc c'est un représentant de ce judaïsme sud-africain qui a fait émerger des artistes de premier plan, que ce soit des écrivains comme Nadine Gordimer ou des musiciens comme Manfred Mann ou Johnny Clegg. Donc c'est quand même assez impressionnant.
Son propre père était, je crois que c'est Rabinovitch, hein, son vrai nom, ou Rabinovitch.
Je suis pas sûr qu'il ait eu à changer son nom.
Je crois qu'il l'a raccourci quand même, mais son père était en tout cas chef d'un grand orchestre en Afrique du Sud aussi.
Et souvent, et pour ne pas dire tout le temps, tous ces juifs sud-africains étaient anti-ségrégation et anti-apartheid.
Voilà, c'est le thème d'ailleurs de son album Can't Look Away, son album solo de 89.
Ouais. Et ils ont milité pour ça, tout comme pour les droits civiques aux États-Unis, mais c'est une autre, histoire. Donc 90125, est-ce que c'est la meilleure vente de Yes?
Ah oui, je pense, de loin. Ouais, hein, je crois qu'on est à 8 millions, voilà, à peu près.
Eh ben alors, ça va vous dire quelque chose, parce que c'est le tube historique, pour des raisons diverses, de Yes.
You always live your life, never thinking of the future.
magazine rock sur le 94.8.
Judaïque FM, bah oui, on parle entre les morceaux, c'est comme ça quand on se connaît un peu. Donc avec Aymeric Leroy, bah, il est temps de conclure à propos de ce livre donc, qui est paru aux éditions Le Mot et le Reste, dont on reconnaît tout de suite à la fois les couvertures et même les tranches, parce que c'est une... comment dire? C'est un design très reconnaissable. Donc,
il voulait changer justement. C'est moi qui ai demandé à ce que ce soit dans la lignée de mes livres précédents avec une photo live du groupe. Mais eux, à leur décharge, ils voulaient un peu changer.
Ah, voilà, c'est moi parce qui que suis normalement, resté... c'est les albums.
Voilà,
donc voilà, c'est, ça raconte toute une histoire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une véritable saga. C'est incroyable. On n'est pas obligé d'être fan du groupe pour retrouver finalement ce qui se passe depuis 50 ans dans tous les groupes de rock du monde, les fameuses divergences musicales. Et encore là, il n'y a pas trop d'histoire de comment dire, sentimentale. Mais
voilà, disons, il n'y a rien de très scabreux. Mais voilà, les épouses qui se détestent, il y en a eu quand même. Hein, mais si on lit d'autres livres sur Yes, on en parle. Moi, j'ai mis un peu la pédale douce là-dessus parce que c'est surtout la musique qui m'intéresse.
Alors, trois choses importantes. D'abord, remercier Antoine qui était à la technique. Ensuite, évidemment, tu as un nouveau bouquin en cours de composition.
Ouais, j'ai plusieurs projets. Voilà. Officiellement, j'ai pas encore tout à fait choisi. Voilà.
Bon, alors on dira rien pour l'instant.
Voilà, je préfère pas.
Mais enfin, moi, je t'inviterai encore pour le prochain, c'est sûr. Hein.
Ok, merci. Donc,
et troisième chose, mon prochain invité dans deux semaines, c'est Pierre Mikhailov qui est venu plusieurs fois ici, qui fait tout le temps des bouquins, hein, tout le temps, il n'arrête pas. Et là, il a refait un livre sur téléphone. Et il se trouve que ce livre, en plus, offre le fameux DVD Téléphone Public, qui est un témoignage assez précieux sur ce qu'était un groupe de rock en 1980 en France, puisqu'à l'époque, en gros, il y avait deux groupes, hein, il y avait Téléphone et Trust.
Et voilà, dans le rock en tout cas.
dans le rock, si on parle de Magma et de Ange, etc., voilà. C'est encore autre chose. Donc, très bonne soirée sur Judaïque FM. Tout de suite, c'est Livre au Café des Psaumes. Et on se retrouve, nous, pour un Schmock on the Water samedi prochain, spécial mesure impair. Mais quelle joie! J'ai même un morceau en 17-8 à vous proposer du groupe norvégien Les Prousses, parmi d'autres. Et il y aura évidemment du rock progressif à l'intérieur de cette programmation. Et sinon, évidemment, dans deux semaines à 21h, pour parler de téléphone. Merci, Aymeric. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Et très bonne soirée.